Le sac aux illusions. Conte arabe. De toutes les villes de l'Empire musulman, au temps du calife Haroun al-Rachid, Mossoul était celle qui jouissait de la plus grande renommée. On disait en effet que ses habitants étaient d'une honnêteté scrupuleuse, qu'aucun marchand n'y avait jamais traité une affaire douteuse et que le sultan qui la gouvernait, bien que de rang modeste, était l'homme le plus intègre que l'on puisse rencontrer. Pourtant, il y avait à Bagdad un homme de grande expérience qui ne croyait guère à cette renommée. Depuis longtemps, il voulait en avoir le cœur net. Un jour, il convoqua un jeune homme qu'il estimait pour son courage et lui exposa son dessein. Par une chaude journée d'été, à l'heure où chacun fait la sieste, un jeune homme, misérablement vêtu, débarqua d'une felouque sur la rive du fleuve Tigre, à Mossoul. Il entra dans une boutique, la plus riche du marché. Le long des murs étaient accrochés de somptueux vêtements tissés dans des étoffes magnifiques. Coton d'Égypte, soie de Chine, brocart d'or et d'argent. Il salua le marchand, mais celui-ci, occupé avec un client, ne lui répondit pas. Il fit le tour du magasin, examina quelques habits et attendit dans un coin. Quand enfin le client fut parti, son paquet sous le bras, le marchand se tourna vers l'étranger et l'interpella. « Hé, toi là-bas, qu'est-ce que tu veux ? Je voudrais connaître le prix de ce caftan de soie, rouge et or. C'est une de mes plus belles pièces et elle coûte très cher, » répondit le marchand. « Dis-moi donc son prix. 1000 piastres. Ce n'est pas cher. On m'avait bien dit que les marchands de Mossoul étaient des gens honnêtes. Je l'achète. » Le marchand demeura stupéfait. Il avait réclamé le double du prix normal pour se débarrasser de ce garçon à l'aspect minable. « As-tu suffisamment d'argent pour l'acheter ?» demanda-t-il soupçonneux. Le jeune homme sourit. « Je pense que oui. La monnaie dont je dispose n'a pas cours ici, car je viens d'un pays lointain. Mais il y a certainement dans mon sac de quoi vous payer largement. » Il ouvrit sa besace et le marchand poussa un cri d'admiration. Pierres précieuses et bijoux de toutes sortes, bracelets, bagues, colliers, le remplissaient jusqu'au bord. L'étranger plongea la main dans le sac, chercha et finit par exhiber une énorme émeraude. « Cette pierre vaut bien plus que les 1000 piastres que vous me demandez. L'acceptez-vous en paiement ?» Le marchand s'empara de l'émeraude, la regarda à peine et la mit dans sa poche. Puis avec un grand sourire, il remit le caftan au jeune homme qui s'en vêtit aussitôt. Le marchand était à présent convaincu qu'il avait affaire au fils de quelque riche calife. Aussi s'empressa-t-il auprès de son nouveau client, étalant devant lui chemise, ceinture, tunique, turban. Mais l'étranger secoua la tête. « J'avais seulement besoin d'un très beau caftan. Adieu, marchand !» Déçu, celui-ci regardait s'éloigner le jeune homme quand il le vit brusquement tituber et s'appuyer au mur de la ruelle pour ne pas tomber. Il courut à son aide. « Vous ne vous sentez pas bien ?» Impressionné par sa fortune, il ne le tutoyait plus. « Non, c'est sans doute la grande chaleur après mon long voyage. » Connaissez-vous une auberge où je pourrais me reposer ? Quelqu'un de votre rang ne peut loger dans une auberge, répondit le marchand. Venez avec moi, je vous offre l'hospitalité dans ma maison, qui est tout près d'ici. Vous pourrez vous y reposer. Le jeune homme accepta. Il semblait sur le point de s'évanouir. Le marchand le soutint comme il put et le conduisit chez lui. Une maison vaste et fraîche. Les serviteurs accoururent. Le nouvel hôte fut installé sur un divan parmi une multitude de coussins. On lui présenta des pâtisseries, des fruits, du thé à la menthe. Mais il ne voulut rien prendre. « Vous sentez-vous au mieux ?» demanda le marchand. « Pas du tout, » répondit le garçon d'une voix faible. « Je voudrais simplement me reposer un peu. » Et il ferma les yeux. Quelques minutes plus tard, il paraissait endormi. Alors, le marchand qui le surveillait ne put résister à la tentation de jeter un nouveau coup d'œil sur le contenu du sac. Et celui-ci ouvert, il ne put s'empêcher de plonger les mains dedans. Pierreries et bijoux ruisselaient entre ses doigts. Scintilla la lumière qui venait du jardin. Combien de milliers et de milliers de piastres pouvaient valoir un tel trésor? Il examinait un saphir gros comme un œuf de pigeon quand il entendit gémir le malade. En toute hâte, il referma la besace et se précipita à son chevet. « Vous avez mal, mon ami ?»« De plus en plus. Je vous en prie, faites venir un médecin. » Le marchand envoya un serviteur chercher le médecin et on attendit. Mais le marchand ne quittait pas des yeux le sac qui le fascinait. Il revoyait briller dans ses mains toutes ces merveilles. Alors, il songea qu'il n'était pas prudent de laisser pareil trésor exposé à la vue de tous. Il jeta un coup d'œil à l'étranger, de nouveau assoupi, se leva et rapidement enfouit le sac sous une montagne de coussins. Bientôt, le médecin arriva. Il regarda le malade immobile sur le divan, les yeux clos, la bouche entrouverte, la respiration haletante et secoua la tête. « Cet homme est en train de mourir. « Sans doute, est-ce un de tes parents ?»« Non, » répondit le marchand. « C'est un client qui s'est trouvé mal en sortant de mon magasin. Je l'ai amené ici par pure charité. » À ce moment, le malade poussa un long soupir, écarquilla les yeux et les referma aussitôt. « Il est mort, » annonça le médecin d'un ton grave. « Dieu le ciel soit loué !» s'exclama involontairement le marchand, incapable de dissimuler sa joie. Le médecin le regarda stupéfait. « Comment ? Ce garçon est mort et tu sembles le plus heureux des hommes ? C'est incroyable !» Le marchand parut confus, bredouilla un instant, mais se reprit très vite. « Docteur, il faut que tu saches la vérité. Ce jeune homme est un de mes parents et je suis son unique héritier. Pourtant, je ne voudrais pas que le reste de la famille apprenne sa mort soudaine. » survenu chez moi, car je crains qu'il ne fasse des histoires et ne réclame une grosse part de l'héritage. Que me conseilles-tu de faire ?
Je ne sais pas. Le problème est délicat, répondit le médecin.
Les deux hommes se regardèrent. Alors, sans un mot, le marchand tira de sa poche la grosse émeraude et la tendit au docteur. Celui-ci la saisit entre le pouce et l'index et la contempla longuement, puis la serrant dans le creux de sa main et fixant dans les yeux son interlocuteur, il murmura « Jette le corps dans le fleuve. Ainsi personne ne saura que ce garçon est mort. » Là-dessus, il s'en alla. Sans tarder, le marchand appela quelques serviteurs. Il leur remit une poignée de pièces d'or et leur ordonna de transporter le corps au-delà des remparts de la ville et de le jeter dans le fleuve. Une fois seul, il s'empara du sac et en renversa le contenu sur un tapis. Tremblant d'émotion, il s'assit et contempla son fabuleux trésor. Il fallait songer à mettre à l'abri cette fortune. Le sac fut soigneusement rempli et à grande peine, car il était fort lourd, déposé au fond d'une armoire puis enfermé à double tour. Pour plus de sécurité, le marchand poussa un divan contre les portes. Il décida même de dormir là, au moins pour la première nuit. Pourtant, le sommeil ne vint pas. Et après quelques heures d'anxiété, le marchand finit par conclure qu'il serait plus raisonnable d'enterrer le trésor dans le jardin.
Seulement le sac était vraiment trop gros. Il fallait se faire aider pour creuser un grand trou. Le marchand alla donc réveiller celui de ses serviteurs qu'il estima, après bien des hésitations, le plus digne de confiance. Il s'appelait Noureddin. « Écoute, lui dit-il, je viens de rêver que des voleurs s'introduisaient dans la maison et s'emparaient de mon argent. Aussi, tu vois ce sac ? Il contient toutes mes économies. Je voudrais l'enterrer dans le jardin. Veux-tu m'aider ?»«
Bien sûr, maître, répondit Noureddin. »
Ils transportèrent le sac au fond du jardin et se mirent à creuser au pied d'un vieil olivier. Il travailla en silence. Le maître inquiet se demanda si cette cachette était bien la meilleure. Le serviteur, quant à lui, se disait qu'il était bien dommage de posséder autant d'argent et de l'enterrer. Il creusait sans se regarder. Maintenant, le maître se demandait si son serviteur n'allait pas un jour prochain lui dérober son trésor et s'il ne valait pas mieux supprimer tout de suite ce témoin gênant. Le serviteur, de son côté, se disait que ce sac, s'il était à lui, le rendrait libre et heureux, et que l'unique façon de s'en emparer était de supprimer son propriétaire. Il creusait toujours. À un certain moment, leurs gestes se firent plus lents et leurs regards se croisèrent. L'instant d'après, ils étaient face à face, brandissant leurs pelles. Plus jeune et plus fort, Noureddin triompha du marchand dont il alla jeter le corps dans le fleuve. Puis il revint au jardin, enterra le sac et s'enfuit se coucher. Au matin, l'épouse du marchand, intriguée par son absence, donna l'alarme. Les serviteurs cherchèrent le maître par toute la maison, de la cave au grenier. On courut au magasin, on se renseigna dans le marché. Au coucher du soleil, l'épouse désespérée alla avertir le sultan. Celui-ci la questionna longuement, mais elle ne savait rien. Puis sur place, il interrogea les serviteurs. Un seul, Noureddin, rapporta quelque chose d'intéressant. « Noble seigneur, déclara-t-il, hier soir mon maître est entré à la maison, accompagné d'un jeune étranger qui portait un sac sur l'épaule. Il paraissait très malade, et peu après son arrivée, il est mort sous les yeux du médecin, appelé en toute hâte. Ensuite, le corps du défunt a disparu, ainsi que son sac. Et depuis cette nuit, mon maître a disparu aussi. C'est tout ce que je sais. » Le sultan fit appeler le médecin. « Hier soir, dans cette maison, tu es venu au chevet d'un malade, qui par la suite a trépassé. Peux-tu me dire ce qu'est devenu son corps ?» Le médecin prit le temps de lisser sa courte barbe avant de répondre. « Je l'ignore, seigneur. J'ai dit au marchand de conduire le malade à l'hôpital, avant qu'il ne meure. Malheureusement, le pauvre garçon a rendu le dernier soupir très vite. Et je suis parti. » Furieux de ne pas avancer dans son enquête, le sultan reprit l'interrogatoire des serviteurs, mais cette fois-ci en usant de menaces. Ils le feraient tous fouetter s'ils ne parlaient pas. Alors, le plus jeune leva la main en tremblant et dit « Noble seigneur, hier soir notre maître nous a ordonné de jeter le corps de l'étranger dans le fleuve. Nous avons obéi, que pouvions-nous faire d'autre ?» En partie satisfait, le sultan fit enchaîner les coupables et assura l'épouse du marchand que les recherches pour retrouver son mari se poursuivraient. Il allait sortir, suivi des gardes et des prisonniers, quand on vit la porte s'ouvrir et un jeune homme apparaître, vêtu d'un caftan de soie, rouge et or. Parmi les serviteurs, ce fut la panique. Certains firent le geste de repousser le visiteur. D'autres s'enfuirent. Ceux qui étaient enchaînés crièrent que c'était un fantôme qui venait d'entrer.
Le sultan s'avança à la rencontre du jeune homme et lui demanda « Qui es-tu ? »
« Je suis l'étranger que le marchand a reçu hier soir ici. »
Le sultan ouvrit des yeux immenses, hésita un instant, puis reprit
« Mais, tu n'étais donc pas mort ? Ne t'a-t-on pas jeté dans le fleuve ?»«
Je n'étais pas mort, j'étais seulement évanoui. Et l'eau froide m'a réanimé. J'ai regagné la rive, je me suis étendu derrière un buisson et j'ai dormi longtemps. » Ce matin, je me suis rendue au marché, j'y ai appris la disparition du marchand et maintenant, je viens reprendre le sac que j'ai laissé ici, hier soir.
Mais qu'as-tu pensé quand tu t'es retrouvée dans le fleuve ?
J'ai cru que c'était là, une coutume locale pour traiter les gens évanouis. Je dois dire que cette méthode est efficace.
Pendant ce temps, la porte de la maison étant restée ouverte depuis l'arrivée du jeune étranger, une foule de curieux, passants, voisins, commerçants, accourus du marché, entouraient maintenant les deux hommes. Le sultan poursuivit l'interrogatoire. « Bon, et dis-moi ce que contenait ton sac. »
L'étranger désigna en souriant un vieillard au premier rang des curieux. « Demande plutôt à cet homme. »
Le vieillard s'avança en saluant.
« Noble seigneur, dit-il, c'est par hasard que je suis entré hier soir dans le magasin du marchand, au moment où ce jeune homme ouvrait son sac pour payer le caftan rouge et or qu'il porte en ce moment. Je voulais examiner une tunique qui se trouvait justement derrière lui. Alors j'ai vu un trésor, noble seigneur, un véritable trésor. Des pierres précieuses de toutes sortes, et des bijoux, des bagues, des bracelets, des colliers. Et le sultan de la très honnête cité de Mossoul parviendra sûrement à retrouver ce trésor, ajouta le jeune homme.
Vexé, le sultan ordonna aux gardes, malgré l'heure tardive, de fouiller immédiatement la maison. On courut en tous sens, de la cave au grenier. On ouvrit les armoires, les placards, les coffres. On inspecta les débarras, les cagibis, les soupentes. Tard dans la nuit, couverts de sueur, de poussière et de toiles d'araignée, les gardes abandonnèrent les recherches. Le sultan était découragé, mais surtout perplexe et inquiet. Un étranger qu'un marchand de Mossoul avait fait jeter, évanoui dans le fleuve, le mettait dans l'obligation de retrouver un trésor lui appartenant et manifestement dérobé par ce même marchand qui avait disparu. Le sultan réfléchit un moment, prit l'étranger par le bras et l'entraîna hors de la maison. « Écoute, lui dit-il, demain, nous irons en justice déposer une plainte en bonne et due forme pour le vol de ton trésor. Et contre qui porter plainte ? Puisque le voleur a disparu.
En effet,
marmonna le sultan. Je n'y avais pas pensé.
Vraiment, je ne sais pas.
Eh bien, moi, je sais. Étant donné que le voleur est un citoyen de Mossoul et que je suis venu dans cette ville attiré par la très grande réputation d'honnêteté de chacun de ses habitants, je vais porter plainte pour vol contre toute la ville de Mossoul. Le sultan était furieux, mais il dut, le lendemain, accompagner l'étranger au tribunal, l'assister dans la rédaction de sa plainte et lui promettre de continuer les recherches. Le jeune homme avertit le sultan qu'il attendrait à Mossoul les résultats de l'enquête et lui indiqua le nom de son auberge. Dès ce moment en ville, l'étranger, son sac et le marchand furent au centre de toutes les conversations. C'est ainsi que Noureddin apprit que les recherches allaient reprendre. Cette nuit-là, quand toute la maison fut endormie, le serviteur courut au jardin et déterra le sac. Les gardes pouvaient fort bien venir fouiller le sol. il fallait trouver une cachette plus sûre. Mais laquelle ? Noureddin réfléchit longtemps au pied du vieil olivier. Toutes les solutions lui paraissaient hasardeuses. En fin de compte, il songea au médecin. Dissimulé derrière une tenture, il l'avait entendu conseiller à son maître de jeter le corps de l'étranger dans le fleuve. Et en le reconduisant, il l'avait vu empocher l'émeraude. Pourquoi ne pas en faire un complice en lui demandant l'hospitalité pour le trésor? Jamais le sultan n'aurait l'idée d'envoyer ses gardes chez le docteur. Noureddin, le sac sur l'épaule, alla donc frapper à la porte du médecin qui, malgré l'heure tardive, vint ouvrir, pensant qu'il s'agissait de quelque malade. Il parut fort étonné en reconnaissant le serviteur du marchand.
Que veux-tu ? Demanda-t-il en fronçant les sourcils.
Laissez-moi entrer, docteur. Le médecin, l'air soucieux, conduisit Noureddin dans une petite pièce sur l'arrière de la maison. L'homme posa son sac sur le sol et, quand la porte fut fermée, déclara :
Docteur, pour une émeraude, où vous êtes conduit en malhonnête homme ?
Quoi ?
Qu'est-ce que tu racontes ?
J'ai entendu tout ce que vous avez dit, mon maître et vous, au chevet de cet étranger que vous croyez mort. Aussi, j'ai un marché à vous proposer.
Ce serait ?
Un instant, le sac de l'étranger. Ce sac rempli de pierres précieuses et de bijoux, disparu mystérieusement. Le voici.
Comment est-il en ta possession ?
Cela ne vous regarde pas.
Mais enfin, que veux-tu de moi ?
Voilà. Vous êtes une personnalité importante de la ville. On vous respecte. Personne ne viendra chercher chez vous un trésor volé. Je vous propose donc de cacher le sac ici pour quelque temps. Dès que l'étranger aura quitté Mossoul et que le calme sera revenu, nous diviserons le trésor en deux parts. Mon ami, que dis-tu de ma proposition ?
Le médecin était offusqué.
Un serviteur osait l'appeler « mon ami » et le tutoyer. Mais cela ne l'empêcha pas de réfléchir. Des dizaines, des centaines de pierres précieuses, aussi belles, aussi grosses que son émeraude. Certes, sa fortune était déjà considérable, mais elle lui paraissait à présent dérisoire comparée à un tel trésor. Il n'avait qu'un mot à dire pour devenir le citoyen le plus puissant de toute la région. Et comme cet homme le faisait remarquer, il n'y avait vraiment aucun risque.
« D'accord, » dit-il.
« Mais il nous faut trouver une cachette parfaitement sûre. » Ils éliminèrent les placards, les meubles, les coffres et autres caisses. Ils voulaient une cachette tout à fait insolite que personne, pas même les gardes du sultan, s'il venait un jour à perquisitionner, ne puisse déceler.
« J'ai trouvé !» s'écria tout à coup le médecin. « Les pots de pharmacie !»
Noureddin convint que c'était une bonne idée. Aussitôt, les deux complices se mirent à l'ouvrage. Ils vidèrent un grand nombre de pots de porcelaine de leurs médicaments et les remplirent d'émeraudes, de rubis, de saphirs, de diamants, de bijoux. Ils remirent les pots sur les étagères et se regardèrent satisfaits. Et brusquement, le médecin changea de visage. « Je me demande, » dit-il, « si tu seras capable de garder le secret. »«
Mais bien sûr, » répondit Noureddin.
« Je n'ouvrirai pas la bouche, même si on doit m'écorcher vif. »«
Et toi, sauras-tu te taire ?»«
Moi, je serai muet comme une tombe. Dans ma profession, on sait garder les secrets. C'est un devoir. Maintenant, trêve de suspicion. Célébrons plutôt notre future richesse. »
Le médecin s'absenta un instant et revint avec un flacon de jus de fruits et deux gobelets.
Levons nos verres en signe d'amitié. Noureddin but le premier. Il n'avala guère qu'une gorgée
écarquilla aussitôt les yeux, porta une main à sa gorge et s'écroula. Le médecin lissa sa barbe pointue et sourit. Il était maintenant l'unique propriétaire du fabuleux trésor. Calmement, il roula le cadavre dans un vieux tapis et lui aussi alla le jeter dans le fleuve. Rentré chez lui, il resta longtemps dans la pharmacie à contempler les pots de porcelaine. Puis se frottant les mains, il s'en fut se coucher. Une semaine après ces terribles événements, le sultan se rendit à l'auberge du jeune homme. « Je suis désolé, lui dit-il. Mes gardes ont fouillé toute la ville, les recherches n'ont rien donné. Le sac reste introuvable. Nous avons fait tout ce que nous avons pu. Tu devrais retirer ta plainte. » « Retirer ma plainte ? Non seulement je ne la retirerai pas, mais je vais me rendre à Bagdad pour rencontrer le calife Haroun al-Rachid. Je lui dirai que la réputation de Mossoul est tout à fait usurpée, que parmi ses habitants, il y a des gens malhonnêtes et des voleurs qui dépouillent les étrangers. Et je lui raconterai tout ce qui m'est arrivé. » Le sultan, accablé, essaya par tous les moyens de convaincre le jeune homme de ne rien dire au calife. Sans un mot de plus, l'étranger le reconduisit poliment à la porte de l'auberge. En chemin, le sultan réfléchit. Déjà l'histoire avait franchi les murs de la ville. Les commerçants des environs se méfiaient soudain des marchands de Mossoul. Et le marché se plaignait de la baisse des transactions. Voilà que maintenant, le calife de Bagdad allait être mis au courant. L'affaire prenait des proportions inquiétantes. Il fallait agir, et vite. Le sultan décida de convoquer le conseil des anciens pour le lendemain. La réunion fut tumultueuse. Elle avait commencé dans le calme, mais dégénéra rapidement quand la discussion s'engagea. On évoqua de vieilles histoires que l'on croyait ensevelies pour toujours. On parla de privilèges, de passe-droits, de pots de vin, de fraudes et d'escroqueries. Bientôt, chacun accusa son voisin des pires méfaits. Le sultan n'en croyait pas ses oreilles. Il n'avait pas imaginé que de pareilles accusations seraient criées si haut et si fort au cours d'une réunion publique. C'était Mossoul, déshonoré de sa réputation, perdu pour toujours. Il en était malade. Les grandes contrariétés lui étaient néfastes et déclenchaient chez lui des crises de foi très douloureuses. La réunion du conseil, à peine terminée, il courut chez le médecin. Celui-ci l'examina et dit « Il te faut une tisane de racines de rhubarbe. Rentre chez toi, repose-toi. Je te ferai porter des racines demain matin. » Demain matin ? Mais je souffre, docteur, s'écria le sultan. Je veux ma rhubarbe tout de suite. Je regrette, répondit le médecin. Aujourd'hui, j'en manque. À ce moment, le serviteur préposé à la pharmacie intervint. Excusez-moi, docteur, vous faites erreur. J'ai rempli un plein pot de rhubarbe la semaine dernière. Depuis, vous n'en avez pas prescrit. » Et vivement, il saisit sur une étagère un gros pot décoré portant la mention « rhubarbe ». Aussitôt, le médecin le lui arracha des mains. « Imbécile, mêle-toi donc de ce qui te regarde !» Intrigué, le sultan intervint. « Qu'est-ce que ça veut dire, docteur ? Je ne comprends pas. Refuserais-tu de me soigner ?» Bien sûr que non, mon humble seigneur. Mais il se trouve que dans ce pot, j'ai caché un poison violent. Excusez-moi, docteur, mais vous vous trompez, s'obstina le serviteur. J'en suis sûr, ce sont bien des racines de rhubarbe. Regardez! Et d'un geste vif, il retira le couvercle et resta, bouche bée, immobile, la main en l'air, complètement fasciné.
Le sultan lui aussi avait vu.
Les gardes jetèrent le médecin en prison et emportèrent avec précaution les pots de porcelaine chez le sultan. Ce fut une mauvaise nuit pour celui-ci. Son foie ne le faisait plus souffrir. Il n'avait plus besoin de rhubarbe. Mais ses pots de pharmacie, alignés devant lui sur le sol, lui ôtaient le sommeil. Il les compta plusieurs fois, les examina, les soupesa. Enfin, il les ouvrit, les uns après les autres. Quelle fortune ! Un seul de ses pots lui permettrait de vivre désormais dans le luxe, de devenir un sultan de rang supérieur. Un seul de ses pots lui épargnerait pour toujours de commander ses gardes imbéciles et de s'occuper des voleurs. À l'aube, il appela le capitaine des gardes. « Fais emporter ces pots dans ma maison de campagne. Mais attention, ils sont remplis d'huile, de farine et de millet. Et ils sont très fragiles. » Le capitaine salua, donna des ordres et retourna se reposer. Vers la fin de la matinée, une petite caravane formée de 6 gardes et 6 ânes, lourdement chargés de pots de porcelaine, s'enfuit à petits pas vers la maison du sultan, juchée dans les collines qui dominaient la ville. La caravane n'avait pas encore franchi les faubourgs que déjà la montée était rude. Brusquement, un des ânes s'arrêta. On tira, on poussa, rien n'y fit. Bien planté sur ses pattes écartées, l'âne ne bougea pas d'un pouce. Alors on eut recours au bâton. Hélas, le premier coup déclencha la catastrophe. Un garde maladroit manqua l'échine de l'âne et brisa un des pots. Aussitôt, une pluie de rubis, de saphirs, d'émeraudes, de diamants dévala le sentier. Après un instant de stupeur, les 6 gardes se jetèrent à plat ventre pour ramasser des deux mains, le plus vite possible, tout ce qu'ils pouvaient, pierres précieuses et les cailloux mélangés. Cette bousculade au ras du sol, entre les pattes des 6 bêtes, entraîna une série de ruades qui firent s'entrechoquer, se fêler, se détacher et s'écraser sur le sol les autres pots de porcelaine. Ce fut un ruissellement de pierres de toutes les couleurs. Sous le soleil de midi, le sentier étincelait de 1000 feux. Et maintenant, les habitants du voisinage accouraient. La mêlée devenait fantastique. Jeunes, vieux, femmes, enfants se bousculaient, se renversaient, se battaient parmi les exclamations, les appels, les injures et les cris. Un homme, accompagné d'une escorte, montait le sentier en courant et en gesticulant. C'était le sultan qui venait surveiller le transfert de son trésor. Comme il atteignait le lieu du désastre, son escorte, qui ne comprenait rien à ce qui arrivait, l'entendit hurler. « Voleur ! Canaille ! C'est à moi ! Rendez-moi ce qui m'appartient !» Et il disparut dans la mêlée. Le soir même, tout Mossoul était au courant. Le sultan avait volé le trésor que l'on avait retrouvé, éparpillé sur le sentier des collines menant à sa maison. Sur tous les visages se lisait la consternation. Le lendemain, dans la ville, ce fut la panique. On venait d'apprendre que le calife de Bagdad, le grand Haroun al-Rachid, lui-même allait venir pour rendre justice. Le procès eut lieu devant la grande mosquée. Les autorités et tous les citadins étaient présents. Le sultan, le médecin, les serviteurs du marchand étaient enchaînés, ainsi que les gardes. Le calife prit la parole. « Habitants de Mossoul, j'étais fier hier encore qu'il y eut dans l'empire des califes une ville jouissant d'une réputation d'absolue honnêteté. Aujourd'hui, avec peine, je découvre que cette réputation
était usurpé. Par amour de l'argent, vous avez montré que vous étiez prêt à n'importe quel crime. Et vous vous êtes trahi pour une poignée de verroterie. Eh oui, dans le sac du garçon courageux que j'avais moi-même envoyé ici pour vous mettre à l'épreuve, il n'y avait que pierres fausses et bijoux de pacotille. Juste de quoi acheter quelques dates. Aujourd'hui même, les coupables seront punis et sur la façade de cette mosquée sera apposée une plaque portant cette inscription. On croyait qu'à Mossoul régnait l'honnêteté. On se trompait. Seuls à se conduire honnêtement furent six ânes qui refusèrent de porter le butin des voleurs. Ainsi, depuis ce jour, la plaque de la mosquée de Mossoul rappelle à tous que la véritable honnêteté est vertu difficile à trouver et plus encore à pratiquer. Merci de m'avoir écouté. Les histoires lues par unlivreunjeu.fr. À bientôt pour une nouvelle histoire.